Donc on passe tout de suite à la table ronde suivante. Comme elle a été annoncée, solution technique ou vision sociétale. Et donc j'invite à la table Guillaume Simonet-Humagnac, qui est consultant notamment pour le comité 21 et chercheur indépendant, maître de conférences associé à l'université de Pau et des Pays de la Dour. Patricia Gatti-Grégory, directrice environnement, décarbonation et RSE de Bouygues Construction. Claire Monteleoni, directrice de recherche au Centre INRIA de Paris, titulaire de la chaire Choose France AI. Chloé Claire, directrice générale de Neymar, membre de l'Académie des technologies. Gilles Vermeaux-Desroches, directeur du développement durable de Schneider Electric. Marc Roussel, directeur général du bureau Veritas France. Et pour animer cette table ronde, Nathalie Pessel, responsable du pôle programme au Pacte mondial Réseau France.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci encore au comité 21 pour l'organisation de ce colloque. J'ai le plaisir donc d'animer cette deuxième table ronde au titre ambitieux autour de l'adaptation et le changement climatique. Est-il une somme de solutions techniques ou une vision sociétale? On verra au cours de l'échange que S1 ou S1E participera également de la réflexion. Étant donné l'ampleur, la complexité de ces sujets-là, donc on va avoir un premier moment d'échange autour de la question des solutions techniques. Il se trouve que nous avons beaucoup d'ingénieurs autour de cette table ronde. Donc, en effet, il y a beaucoup d'exemples qui pourront être partagés. Et puis après, on plongera en effet dans la vision sociétale et de se dire en effet de comment on a envie de se raconter ces histoires-là, avec quelles échelles géographiques, humaines et avec quels paradigmes également à changer, expressions qui ont pu être évoquées jusqu'ici. Je vais commencer par Gilles Vermeaux-Desroches. Et oui, tout de suite, on vous mobilise. On va commencer en effet avec donc Schneider Electric, qui est un acteur international spécialiste de la gestion de l'énergie et de l'automatisation. Et pour commencer, deux questions. Tout d'abord, dans le cadre de Schneider Electric, est-ce qu'il y a eu un moment où l'adaptation au changement climatique est venue un peu percuter les solutions proposées par l'entreprise? Est-ce qu'il y a eu un déclic ou pas? Est-ce que c'est une conscience lente? Et aujourd'hui, concrètement, comment est-ce que les solutions que vous proposez intègrent ces contraintes d'adaptation au changement climatique?
Merci beaucoup. Merci au comité 21 pour cette initiative et à vous tous pour être là. Schneider Electric est probablement un acteur très différent des deux autres partenaires de cet événement, que sont Vinci et Veolia. Vinci et Veolia, c'est des entreprises qui sont présentes sur le territoire pour rendre des services. Et donc, quand sur ce territoire, aujourd'hui, il y a des drames, ils les assument et c'est leur job de faire en sorte que les infrastructures soient à nouveau en service et opérationnel, et c'est aussi leur job d'accompagner ces territoires à réfléchir à comment ils doivent s'adapter. C'est pas du tout le métier Schneider, donc je vais pas vous vendre l'idée qu'on est les trois pareils et que c'est le même métier. Je pourrais même dire, ça vaut le coup de le dire une fois, que l'adaptation pour un certain nombre d'entreprises comme Schneider Electric, qui sont des équipementiers, c'est une bonne nouvelle. Si on calcule mal le PIB comme on le fait depuis longtemps, ou si on considère que le PIB est la seule mesure du progrès, l'adaptation, c'est une bonne nouvelle. On a même qui irait jusqu'à dire que ici, une inondation, ici, une autre catastrophe, et tout à coup, il faut reconstruire, et pour le monde de l'entreprise et pour la manière de calculer le PIB aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle, puisque ça crée... Ça crée de l'adaptation avec des équipements nouveaux, etc., etc., penser des choses nouvelles. Il ne faut pas complètement l'enlever. On parle tous de l'adaptation comme si on était en dehors du monde, que tout ça ne se vivait pas dans des réalités économiques et que le bien commun est quelque chose de globalement réparti et qui ne se construit pas par des acteurs complémentaires. Donc si je reviens à Schneider Electric a construit ces 20 dernières années sur l'atténuation. S'il n'y avait pas eu la nécessité d'atténuation sur la planète, Schneider Electric serait une entreprise morte. Parce que ses concurrents des pays en développement auraient fait beaucoup moins cher les solutions qu'on met sur le marché. Et si aujourd'hui Schneider Electric et la quatrième capitalisation du CAC 40 depuis un mois, c'est-à-dire devant Total Energy, jamais devant les trois du luxe. Alors on pourrait réfléchir à pourquoi ce sont les trois boîtes du luxe qui sont si loin devant tous les autres en France, à plus de 300 milliards de capital, alors que beaucoup d'autres industriels dont le nom est indispensable à l'atténuation sont entre 20 et 30 milliards, c'est-à-dire 10 fois moins. Ça vaut quand même le coup de poser la question de ce sujet-là et pas de le mettre complètement à distance de notre débat. N'empêche que Schneider Electric est arrivé à 140 milliards de capitalisation parce que sa proposition de valeur, c'est de décarboner le monde. Si dans nos solutions de l'interrupteur qui est ici, c'est dommage, c'est pas le nôtre, comme quoi dans la commande publique, il y a quelque chose à faire pour pas seulement acheter étranger. Bon, c'était facile. Hein. Du bâtiment à la maison, en passant par l'infrastructure, l'usine, Schneider Electric ne met pas en plus de la distribution électrique et de la sécurité, la réduction de la consommation énergétique, l'intelligence d'usage et l'adaptation de l'ensemble de ces lieux pour viser à la décarbonation, 80% du chiffre d'affaires de Schneider Electric, y compris la décarbonation du secteur de l'oil and gas. Je sais que c'est compliqué, mais c'est un métier. Dans le process, et c'est notre métier. L'entreprise ne serait pas où elle est aujourd'hui. Alors, quand on est comme ça, picousé à l'atténuation, tout à coup, mettre dans notre réflexion l'adaptation, c'est quand même très intéressant. Alors, il ne faut pas enlever le premier métier, mais c'est un métier vraiment complémentaire et vraiment différent. Comment Schneider Electric vise ce sujet ? D'abord, je me suis posé une question, et je vais retourner à des propos que je partage après qu'on ait discuté ensemble avec le sénateur Dantec qui nous accueille, et on le remercie. Je me suis dit, mais nous, quand on est en France ici, une fois qu'on a enlevé les catastrophes, parce que j'ai entendu dans la première table ronde que c'était pas qu'une question de catastrophe, et après les catastrophes, comment on rebâtissait ? C'est vrai qu'il y a des choses qu'on entend, qui se pensent et qui se réfléchissent après les catastrophes, dont on se dit, est-ce que tous les territoires qui n'ont pas encore eu la chance d'avoir une catastrophe pourraient y réfléchir un petit coup avant ? C'est intéressant. C'est-à-dire, on voit bien comment il y a une grande réflexion qui se pose sur les cours d'eau, l'évolution des cours d'eau. Je cherche le nom de ce village qui a disparu dans les Alpes. La Béarde, où ils réfléchissent comment ils vont faire tout différemment, etc. Je pense que ce serait bien d'y réfléchir avant. Et je me suis dit, moi, au-delà de Schneider Electric, Gilles Vermeau-Desroches, quel est le mot nouveau ou le concept nouveau que j'ai vu dans la vraie vie des Français et qui touche à l'atténuation, à l'adaptation ? Eh bien, un sur lequel on a eu une discussion, monsieur le sénateur, il n'y a pas très longtemps. Je pense que c'est assez récent qu'on parle de la précarité énergétique l'été. Ça, c'est un vrai sujet d'adaptation. Jusqu'à maintenant, on disait, d'ailleurs, les tarifs le montrent, il faut s'intéresser au fait que les personnes puissent avoir en plein hiver, quand il fait froid, accès à l'électricité et de la précarité énergétique, etc. Mais quand on sait aujourd'hui, quand il fait beaucoup plus chaud, les conséquences pour les gens qui habitent dans des passoires énergétiques l'été, là, voilà un sujet d'adaptation. Pour Schneider Electric, au fond, la question dans l'adaptation, et je finirai par là, c'est de bien réfléchir, pas avec les technologies d'aujourd'hui, mais avec celles de demain. Parce qu'au fond, le PNAC, le premier, est en 1999, je crois. En 1999, le seul téléphone qu'on met très en valeur, c'est le téléphone filaire. Il n'y a pas d'énergie renouvelable. Le photovoltaïque coûte 30 fois plus cher qu'aujourd'hui à l'électron produit. C'est pas 99 ? Je me trompe. Voilà. Sur le site de l'État, j'ai lu tout de suite, il y a marqué 99. Ce qui est sûr, c'est que si vous et moi aujourd'hui, on prenait une feuille de papier et qu'on dessinait la ville de demain, de 2050 par exemple, on voit très bien ce qu'on dessinerait, comment elle serait cette ville. Qu'est-ce que d'aujourd'hui il n'y aurait plus et qu'est-ce qu'il y aurait de nouveau ? Par exemple, c'est sûr qu'en 2050, la ville qu'on dessinerait, elle aurait que des voitures électriques, elle aurait que de l'électricité pour chauffer les maisons et les bâtiments, etc., etc. Je parle de ce sujet puisqu'il me concerne. Ça veut dire que quand on fait des efforts d'adaptation aujourd'hui, il ne faut pas essayer de chercher des technologies d'aujourd'hui dont on sait que dans un de ces quatre, elles ne serviront plus à grand-chose, parce que ça fait beaucoup d'investissements perdus. Il faut tout de suite, et la commande publique est essentielle, mêler l'ambition d'adaptation avec l'innovation et de ce que peuvent apporter les technologies de demain, que si on les met en œuvre plus tôt, non seulement on les fera aller plus vite, non seulement on fera encore de l'atténuation qui n'est pas l'opposé de l'adaptation, mais les deux doivent se vivre ensemble, et on sera aussi un peu conscient de la finance publique et de la finance privée, ce qui n'est quand même pas mal dans les temps qui courent.
Merci pour votre réponse. Et on sentait déjà dans vos propos, en effet, venir la deuxième partie de cet échange, quand vous évoquez la précarité, en effet, tout ce que ça, on pourra parcourir tout à l'heure. Je voyais Madame Claire aussi faire des petits mouvements de la tête par rapport à certains de vos mots. Donc, tant mieux, il y aura du débat. On va continuer avec un autre secteur d'activité, enfin, néanmoins assez connexe, celui du bâtiment et des travaux publics, puisqu'on a, pour cette table ronde, en fait, trois acteurs qui, chacun, dans leur emploi, dans leur point de vue, incarnent cette problématique. On va commencer avec vous, Monsieur Roussel. Puisque lorsque nous avons parlé, vous m'avez indiqué que dans le cadre, en effet, de votre activité au Bureau Veritas, avec les effets du changement climatique, à la fois les effets violents, mais également les tendances de fond, vous voyez une évolution des leviers de motivation des acteurs qui vous contactent. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, tout d'abord, merci Monsieur le Sénateur et merci le Comité 21 pour l'invitation. C'est un honneur d'être là et je suis ravi. Bureau Veritas, c'est un spécialiste des thèses, inspections, certifications. Ça paraît un peu loin. Monsieur le Président l'a dit en introduction, hein, on est 83 000 collaborateurs et on est dans 140 pays, ce qui nous donne une bonne vision de ce qui se passe. Et pour la petite histoire quand même, on a commencé notre histoire il y a près de 200 ans en aidant le commerce international à faire face à un risque naturel qui était les tempêtes. Et en fait, on a aidé à faire un registre sur les bateaux et sur l'évolution de façon à ce que on puisse continuer à exercer un métier face à un nouveau risque qui était les tempêtes. Dans notre métier, qu'est-ce qu'on voit ? Et depuis, on a toujours continué à essayer d'aider nos clients à gérer les nouveaux risques. Qu'est-ce qu'on voit sur l'adaptation aujourd'hui ? Et quels sont les moteurs qu'on avait discutés ensemble, hein. Un des premiers moteurs qu'on observe dans les clients qui viennent nous voir, c'est les assurances, qui étaient notre premier client initialement. Mais les assurances, en fait, avant même la réglementation, sont ceux aujourd'hui qui motive beaucoup d'entreprises à regarder un peu leur exposition aux risques de changement climatique. Par exemple, y compris les assureurs, d'ailleurs, je tiens à le dire, américains, qui ne sont pas les moins demandeurs sur ces sujets-là. Contrairement à ce qu'on pourrait penser de loin, encore regarde les États-Unis, les assureurs américains ou les investisseurs américains sont très demandeurs. Par exemple, c'est un entrepôt logistique. Les entrepôts logistiques, aujourd'hui, s'ils sont soumis à quelques tassements différentiels, vous avez des entrepôts logistiques remplis de racks, ils deviennent très très rapidement non impropres à leur usage. Autre moteur des entreprises qui viennent nous voir, c'est les certifications durables, notamment les certifications comme le BREEAM, dans lesquelles vous avez des parties RSL qui sont sur la résilience climatique. Une partie sur les inondations, mais aussi une partie sur les risques naturels. Donc ça, c'est aussi un moteur qui, du coup, amène les personnes qui essaient de certifier leur bâtiment à s'interroger sur quels sont les risques et quelles sont les mesures que je dois prendre pour m'adapter. Après, dans l'autre moteur, on a la réglementation, mais j'ai envie de dire, avec tout le respect pour l'autorité publique, la réglementation à ce jour sur ce sujet-là est assez faible. Donc il y a quelques plans de prévention, mais il n'y a pas de grand moteur. Heureusement, j'ai envie de dire heureusement, ça c'est un point de vue personnel, la CSRD arrive, la taxonomie verte, la CSRD, qui là, on le voit déjà, pousse les entreprises à aller regarder leur exposition au risque de changement climatique et à voir ce qu'elles doivent faire. Donc là, on a déjà accompagné plusieurs grandes entreprises à essayer d'évaluer leur exposition et voir ce qu'ils peuvent faire sur des grands parcs immobiliers notamment. Après, on a un autre moteur, j'ai envie de dire un autre driver d'action. Celui-là est assez classique, l'actionnaire. Alors l'actionnaire, de ce qu'on voit nous aujourd'hui là où on est, intervient un peu à deux niveaux. Beaucoup, on est consultés nous pour faire des audits lors de transactions. La plupart des fonds d'investissement privés aujourd'hui, ils vont aller, quand ils achètent une entreprise, vont aller faire un peu, nous demandent des audits pour aller regarder l'exposition au risque climatique. Et bien entendu, par voie de conséquence, ça pousse ceux qui ont des entreprises qui un jour pourraient les vendre à s'interroger et à prendre soin de l'exposition de leurs entreprises au risque climatique. Typiquement, ça a été cité avant par l'ADEME. L'ADEME et BPI France ont développé un diagnostic adaptation pour lequel Bureau Veritas est reconnu, hein, répertorié et formé pour pouvoir le déployer. Mais là, l'idée, c'est d'aider les entreprises dont je suis actionnaire, à les encourager à s'adapter au changement climatique. Après, un autre driver possible qui est plus récent et qui est peut-être dommage, c'est la rénovation du bâti. On fait beaucoup de rénovations aujourd'hui, mais la première motivation aujourd'hui était plutôt la transition énergétique. Depuis peu, et je dois dire que c'est assez récent malheureusement, les gens commencent à se dire, pendant que je fais la rénovation pour dans le but de mieux isoler, de faire des économies d'énergie, c'est peut-être l'occasion aussi de m'interroger sur comment je peux adapter les choses pour réduire mon exposition au changement climatique ou prendre en compte des effets comme l'inconfort d'été. On a notamment, par exemple, travaillé sur des sujets comme ça avec l'Université de Bordeaux. Autre moteur et autre acteur que l'on voit, ce sont les industriels. Donc là, sur un sujet encore plus peut-être dangereux, j'ai eu la chance de participer début octobre à les rendez-vous majeurs de l'association Amaris. Amaris, ça ne vous parle pas beaucoup, je pense. C'est l'association des collectivités pour la pollution, la prévention de la pollution et la prévention des risques industriels. Et là, en fait, petit scénario catastrophe, on appelle ça les NATEC. Et les NATEC, en fait, c'est les risques industriels qui sont issus de risques naturels. Mais de nous, aujourd'hui, on a un nouveau type de NATEC qui n'est pas si naturel que ça, qui est en fait un événement naturel qui est lié au changement climatique, qui a pour son conséquence un événement industriel qui peut être dramatique. Et là, aujourd'hui, les collectivités locales qui ont des zones industrielles, donc c'est le cas du Havre, mais c'est le cas de beaucoup de zones industrielles françaises, je peux vous dire que début octobre, le sujet des NATEC devient un sujet sur le devant de la scène, parce que le changement climatique, pour ces zones-là, peut avoir des réactions en chaîne et des conséquences extrêmement sérieuses. Et on travaille, bien entendu, à leur côté. Et puis, le dernier driver qui est le plus dramatique, là, je rejoins mon prédécesseur, c'est les gens qui viennent nous voir suite à des catastrophes qui ont déjà un peu eu lieu, qui se posent la question. Donc là, ça peut être des syndicats de bassins versants qui viennent nous voir suite à catastrophes, qui se disent peut-être qu'il faudrait qu'on accélère sur les sujets sur lesquels on a commencé à regarder. Voilà un peu les... En conclusion, quand même, juste pour résumer notre point de vue, on a de plus en plus de demandes, mais ça concerne essentiellement, j'ai envie de dire, par rapport à ce que disait tout à l'heure, les points du PNAC, la résilience économique, c'est comment je préserve la valeur économique de mon bien. Ces demandes sont encore extrêmement individuelles. On a peu de demandes collectives. C'est quand même plutôt des entreprises qui viennent nous voir, un investisseur privé qui vient nous voir sur son portefeuille. Ce n'est pas très collectif, tout ça. Et puis, une dernière remarque, c'est essentiellement des demandes qui concernent le monde inerte. On a très peu de demandes et très peu d'actions aujourd'hui sur comment on aide le monde vivant à s'adapter au changement climatique. Là, c'est le mieux qu'on ait aujourd'hui, le mieux qu'on ait. Ce qu'on voit, c'est une augmentation de la prise de conscience sur la préserver la biodiversité. Ça, on voit et on accompagne, on travaille sur ces sujets-là. Par contre, l'adaptation du vivant au changement climatique, là, c'est un sujet, pour l'instant, en tout cas, pas sous nos radars.
Merci beaucoup pour avoir planté le décor des différents leviers de motivation et des moteurs. Pour pouvoir donner une dimension concrète, certes sur une activité inerte, mais néanmoins. Une question pour vous, Madame Gatti-Grégory, sur Bouygues Construction. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous intégrez l'adaptation au changement climatique dans les phases de conception et de construction des projets que vous menez ?
Oui, alors Bouygues Construction fait partie du groupe Bouygues, donc c'est 190 000 collaborateurs dans 80 pays. Et Bouygues Construction, c'est environ 40 000 dans 60 pays. Donc déjà, ce qu'on fait, c'est qu'on est des grands voyageurs dans l'espace et dans le temps et des grands observateurs, parce qu'on a la chance, en fait, d'opérer dans plusieurs pays où il y a différentes conditions climatiques, différents contextes, et on construit des ouvrages très différents parce qu'on est spécialisé dans des bâtiments pour le logement ou pour la santé, la justice. On fait aussi des infrastructures pour la transition écologique et énergétique, dont centrales nucléaires, éoliennes, offshore par exemple, infrastructures ferroviaires, etc. Donc le fait qu'on opère dans différents pays et qu'on a organisé un business line spécifique produit et transverse, ça nous permet d'avoir un retour d'expérience de comment on s'adapte à des conditions climatiques extrêmes, hein, parce qu'on opère dans des pays dans le désert, mais aussi on construit un centre de recherche à l'Antarctique, par exemple. Donc tout ce retour d'expérience qu'on peut avoir de la construction, on le met au service des ouvrages de nos clients dans les différentes parties du monde. Et donc c'est un voyage dans l'espace, mais c'est un voyage aussi dans le temps, parce qu'il y a des conditions climatiques qu'on retrouve dans certains pays, qu'on retrouvera en France. Et on est des grands observateurs aussi, dans le temps, de tout ce qui a été fait. Parce que finalement, on n'invente absolument rien, parce que l'homme a construit des ouvrages depuis des milliers, des millions d'années, dans des conditions extrêmes, et a développé des techniques constructives très intéressantes, à l'époque où il n'y avait même pas le pétrole. Et ça marchait. Et on observe aussi ce que fait la nature. Par exemple, les termites font des nids de 7 mètres, et ils sont autorégulés en température, donc tout un système de porosité. Donc c'est très important pour les solutions d'adaptation d'observer ce qui existait déjà dans la nature, ce qui existait déjà et qu'a fait l'homme dans des milliers d'années. Donc ça pour nous c'est très important. Et on a mis en place un tiers lieu en fait qui s'appelle Scale One. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il a été lauréat de Grand Prix d'innovation où on va tester des solutions à échelle réelle. Parce que le problème aussi dans la construction, c'est qu'un petit échantillon n'est pas représentatif. Et à chaque fois pour tester, il faut des chantiers. Et on ne trouve pas toujours les clients ou les chantiers qui sont prêts pour faire des tests. Donc là, on a créé ce tiers lieu qui est ouvert à tout le monde. Ouais, c'est 25 000 mètres carrés. Voilà, donc toute cette démarche des recherches et des retours d'expérience qu'on a, on la met à disposition et c'est primordial. En plus de tout ce qui a été cité, je pourrais citer une liste des solutions, hein, que ce soit les choix architecturaux, par exemple, les choix des matériaux aussi. Donc il y a la végétalisation, il y a beaucoup de choses, il y a ce qui est le génie écologique, après quand on parle en élargir l'infrastructure, l'hydrologie régénérative, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous aider. Mais ce qui est plus important, c'est le point de vue qu'on peut avoir. Et je voudrais répondre à ce qu'a dit monsieur le sénateur sur s'adapter au territoire. Parce que les solutions, elles sont tantes, elles sont beaucoup, mais il faut l'adapter au territoire et prendre les solutions qui vont bien. Et pour ça, l'architecture écologique parle d'une différente maturité qu'on peut avoir dans les approches. Celle de, là je parle de la ville, mais on peut aussi l'appliquer au territoire, c'est de la ville qui est vivable, durable ou régénératif. Alors, quand on parle des villes vivables, on a des solutions qui permettent du confort, on plante des arbres, c'est esthétique aussi, ça permet d'améliorer la qualité des vies. Mais quand on va sur une ville, un territoire durable, là, on commence à intégrer la biodiversité. Donc, ce n'est pas n'importe quel arbre, mais c'est un arbre qui est autochtone, par exemple, qui est plus autonome qu'un arbre qui vient d'ailleurs, et aussi qui est en connexion avec d'autres espèces. Et après, on a le niveau supérieur. Alors là, c'est ce qu'il faudrait aller. C'est la ville au territoire régénératif. Et là, il n'y a pas que la nature. Là, on réfléchit à le territoire comme au métabolisme du territoire. Et là, on considère l'humain et la nature ensemble. Et on cherche des solutions, en fait, régénératives, des façons qui peuvent s'autoréguler le territoire.
Et sur ce point-là, comme décidément c'est un sujet où on sent que la partie vision sociétale intéresse beaucoup, c'est nos panélistes, de garder peut-être ces éléments-là pour la deuxième partie du tour de table sur la question de la qualité.
Et c'est un exemple qui pratique à Marseille, en fait, qui on a sous sujet.
Très volontiers. Oui. Parfait. Okay. Merci beaucoup. Madame Claire, donc vous êtes directrice générale de l'entreprise Namer et qui affiche comme promesse l'IA pour décider de l'avenir de l'habitat.
et qui propose parmi différentes solutions, par exemple un simulateur de risque climatique, notamment sur le retrait gonflement des argiles, les inondations, les canicules, et une base de données des risques qui inclut de la géolocalisation, tout ça donc pour faire de la prévention et de l'accompagnement de ces risques. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de cas d'usage qui sont utiles à vos clients et qui ne pourraient pas être mis en place sans la mobilisation de méga données?
Ah, tout à fait. Donc, bonjour à tous. Donc, Nemer, c'est donc une green tech. Et ce que nous développons, ce sont donc un ensemble de données et d'informations sur tous les bâtiments d'un territoire, aujourd'hui à l'échelle de la France, et on développe en ce moment l'Italie et l'Espagne. Et qu'est-ce qu'on fait? En fait, on utilise la puissance du big data, principalement en France, l'open data qui est à notre disposition, publié par l'ADEME, publié par l'IGN, par le BRGM, etc. Donc, toutes ces institutions publiques qui nous fournissent énormément de données. Et on utilise donc cette puissance du big data pour avoir des informations sur l'ensemble des bâtiments, mais surtout, on utilise la puissance des algorithmes d'IA pour pouvoir personnaliser l'information à chacun des bâtiments, c'est-à-dire pour des millions de bâtiments. C'est-à-dire qu'on va faire un calcul d'ingénierie qu'on peut faire soit pour, par exemple, de la rénovation énergétique ou pour de l'adaptation au changement climatique, qu'on pourrait faire en tant qu'ingénieur sur un seul bâtiment. Avec l'IA et avec le big data, on peut le faire sur des millions de lignes. Alors, rassurez-vous, ce sera un tout petit peu moins bien que s'il y a un vrai ingénieur qui fait le calcul. Ça, je vous le dis tout de suite. Mais en tout cas, ça permet en fait de faire des ciblages dans des portefeuilles immobiliers, de trouver le 20-80, c'est-à-dire les 20% de bâtiments sur lesquels on pourra agir pour avoir 80% de résultats. On a décidé de travailler en particulier sur le logement, sur à la fois les maisons individuelles et les immeubles d'habitation, parce que c'est finalement ceux qui étaient le moins bien servis par les technologies, et c'est aussi ceux vers lesquels on a besoin d'informer massivement. Et donc vous avez compris, nous, notre solution, c'est avant tout de pouvoir être à la fois massif et particulier. Et donc on fait des simulateurs de rénovation énergétique, d'installation de renouvelables, de prévention au risque retrait et gonflement d'argile, protection aux inondations, qui sont distribués par ceux qui ont un intérêt indirect dans leur portefeuille, ceux qui financent les crédits immobiliers, c'est-à-dire les banques, et ceux qui vont accompagner les usagers dans leurs sinistres, c'est-à-dire les assurances. Et on travaille aussi avec beaucoup avec les institutions publiques. Mais donc nos produits s'adressent aux particuliers, et ce qui est intéressant, c'est que en fait, ils permettent en fait à des gens qui n'ont aucune idée d'un risque ou de même par où commencer une rénovation énergétique, de pouvoir en fait faire une simulation en 2 minutes. Donc on peut s'adresser à 100% des gens. C'est ça la différence par rapport à tous les autres simulateurs, c'est que tout est pré-rempli grâce à nos données. Et donc à quoi sert l'IA? Typiquement, pour vous donner un exemple précis, aujourd'hui en France, si on récupère donc le dataset de l'ADEME, où tous les DPE qui existent en France sont répertoriés, vous avez environ 10 millions de DPE, soit 2 millions de bâtiments. Or, on a 25 millions de bâtiments de logement en France. Donc, l'IA permet en fait d'inférer, donc d'estimer, de prédire le DPE pour les 23 millions de bâtiments résidentiels restants qui n'ont pas eu de mobilité immobilière. Donc, on voit tout de suite comment on peut faire, et puis ensuite, avec des règles métiers, qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment est-ce qu'on pourrait agir. Et la force aussi de l'IA est que, à partir de la très très bonne base d'open data de France, on est capable d'utiliser nos algorithmes qui ont été entraînés en France sur un territoire italien où l'open data est de très mauvaise qualité, et on arrive à prédire les DPE des habitations en Italie à partir d'un petit entraînement de DPE italien qu'on obtient aussi, mais grâce en fait à l'open data français. Donc c'est quelque chose d'assez particulier. Et donc l'IA va permettre en fait de pouvoir apporter une solution personnalisée à des millions de gens, puisqu'on ne peut pas malheureusement payer à ce qu'un ingénieur vienne peut-être faire un diagnostic dans chacune des habitations. Par contre, on peut dire, c'est 10% d'habitations, envoyez quelqu'un sur le terrain pour le faire. On ne se substitue pas à l'humain au final, mais par contre, on cible. Et donc, ça permet en fait de pouvoir, aujourd'hui, on a entre nos mains des solutions qui permettent de dire à chacun des particuliers qu'est-ce qu'il peut faire en vision 360. Et je suis contente, on est au Palais du Luxembourg, de remercier le Sénat qui, à son dernier décret, a défini qu'en fait, MaPrimeRénov dans les zones à risque devait être assujettie à une étude spécifique sur la prévention des risques climatiques. Ça, c'est très important parce que, et c'est d'ailleurs l'introduction du PNAC, atténuation et adaptation en même temps. Et on peut le faire pour les particuliers. En tout cas, la techno existe. Et pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, où il faut qu'on imagine les villes de demain avec les technos de demain, moi, je pense que sur les bâtiments, on est à peu près à 80% ou 90% des technos connus. Il n'y a plus de R&D, il y a des financements. Et on en parlera tout à l'heure. La problématique chez les particuliers, c'est le financement, la chaîne de financement de la prévention. Celle-ci, on a bien trouvé MaPrimeRénov, mais sur la prévention, on pourra l'évoquer tout à l'heure.
Merci beaucoup. On va rester dans le domaine des mégadonnées et de l'intelligence artificielle, cette fois-ci avec vous, Madame Monteleoni. Est-ce que vous pouvez partager avec nous des exemples de travaux et de réflexions que permettent les modèles d'intelligence artificielle quand on regarde à moyen, à court et à long terme pour permettre de mieux considérer, envisager l'adaptation au changement climatique ?
Ah, oui, merci. Alors, Madame Claire a donné une très belle exemple. Et je viens de monter une équipe projet à l'INRIA, qui est votre laboratoire national pour l'informatique et les mathématiques appliquées. Notre équipe AI Research for Climate Change and Environmental Sustainability, ARCH, on vise à travailler avec l'IA et on a déjà travaillé avec l'IA aux États-Unis pendant plus de 15 ans. Pour confronter le changement climatique à les termes de temps court terme, moyen terme et long terme. Alors, court terme, on peut parler de des feux de forêt, des tempêtes, et concevoir des outils qui puissent mieux les prévoir. Et aussi, on s'intéresse beaucoup sur les hasards enchaînés, comme quelqu'un a mentionné. Au moyen terme, alors là, on travaille sur aider aux atténuations de réchauffement plus graves. On a quelques collaborations avec EDF. Ils visent à reconcevoir l'éolienne de l'avenir et le panneau solaire de l'avenir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que la planète qui réchauffe. Tout le système de le climat change. Les circulations de vent, c'est déjà montré que ça change. Alors, c'est possible que les éoliennes ne sont pas dans les bons sites actuellement pour les vents de l'avenir. Et même que les intensités sont en train de changer et en fait, l'éolienne qu'on a actuellement ne peut pas fonctionner après un plafond d'intensité de vent. Alors, il faut le complètement reconcevoir. Et troisième, on travaille de réduire l'incertitude dans les prévisions long terme de le changement climatique. Par exemple, on a j'ai aux États-Unis un projet avec la NASA. Ils ont une très bonne base de données sur le niveau de la mer. Et c'est sur un gris spatial. Mais ils ciblent à avoir prévision de la tendance de le niveau de mer à 30 années dans le futur, à certes îles dans le Pacifique qui sont très stratégiques. Mais ça, c'est difficile. Et une grande approche que marche pour nous, c'est d'entraîner l'IA pour traduire ce qu'ils disent les modèles JEC dans l'avenir, mais à très, très grosse échelle d'espace. À les petites échelles d'espace, les échelles fines qui ont besoin pour toutes les tâches Désolé. Merci. Pour toutes les tâches d'adaptation et atténuation qu'on vise. Et ce n'est pas traducteur dans le sens de DeepL ou Google Translate, parce que ce n'est pas entraîné sur le texte. C'est entraîné, par contre, sur les champs de vent et les champs de variables météo. Et par exemple, au même temps, on a les bases de données observées actuelles et dans le passé récent, on a les simulations de la GEC dans la même période. Alors, on entraîne comme ça et après, on applique l'IA pour traduire les modèles GEC dans l'avenir.
Merci. Et pour finir ce premier tour de table, Guillaume Simonet-Oumania, dans le cadre de votre travail pour avec le comité 21, vous avez notamment œuvré sur un guide autour des infrastructures critiques et des risques de défaillance en cascade, ainsi que sur un guide autour de l'adaptation au changement climatique du domaine de la santé, qui est sorti il y a 3 jours, pour pouvoir en effet compléter. On a eu des exemples très détaillés sur le secteur des bâtiments et des travaux publics. Est-ce que vous pouvez partager votre vision et vos recherches sur le domaine de la santé, même également si vous souhaitez rebondir sur la question des infrastructures critiques qui ont pu être mentionnées ici.
Bonjour à tous, merci pour donner la parole. Effectivement, je suis un peu la publicité avant la pause, hein, en fait, pour le comité 21 notamment, et pour mettre en valeur effectivement tout le travail qu'on fait depuis 2018 à travers ce programme d'adaptation au changement climatique avec un S. Je suis arrivé à convaincre le comité 21 que c'était bien de mettre un S à changement climatique, et j'y tiens parce que on parle de choses qui sont au pluriel, aussi bien sur les impacts, les origines, les causes. Et donc, ça réfère plus à la complexité de la chose qu'au phénomène physico-chimique. Bon, bref, c'est une aparté. Je suis déjà parti sur les apartés. C'est la difficulté avec les sociologues de leur donner la parole. Bon, alors, on vient de sortir, effectivement, aujourd'hui, hein, vous dites il y a 3 jours, mais en réalité, aujourd'hui, un nouveau guide pratique à destination de la santé, des acteurs de la santé, plus spécifiquement à destination des établissements sanitaires et médico-sociaux publics et privés. On a essayé de faire un effort de concision de l'information où on présente effectivement les outils disponibles, les pistes de financement, comment mettre le pied à l'étrier finalement à travers, alors non seulement un guide de 50 pages qui est oui, long pour des acteurs de la santé qui ont d'autres choses, d'autres priorités, mais avec une petite synthèse de 15 pages. Sur ça, peut-être deux choses en aparté par rapport à ça, notamment sur les outils. Les outils, alors on présente ce qui est disponible, mais une petite réflexion qui me vient à l'esprit en écoutant notamment la première table ronde, c'est peut-être l'inadéquation qui se profile entre l'idée de dire que l'adaptation est contextualisée à l'échelle locale, donc finalement unique en soi, et cette volonté de mettre en place des outils quasiment uniformes à toutes les échelles. Donc il y a quelque chose qui ne coïncide pas totalement. Et donc le message qu'on essaye de faire passer ici à travers ce guide, c'est oui, on présente des outils, mais attention, ces outils non seulement sont réappropriables, recontextualisables, on va dire, par chaque acteur, y compris complémentaires entre eux, modulables, bref, la matière est là, on va dire, pour que chaque acteur puisse se reconfigurer, se réorganiser à partir de quelques outils, quitte à fabriquer son propre outil. Et je pense que c'est essentiel. L'uniformisation n'existe pas dans l'adaptation. L'adaptation, c'est quelque chose d'unique à chaque contexte, aussi bien spatial, géographique, de chaque organisation, etc. Première réflexion. Deuxième réflexion, il a été souligné effectivement, en janvier prochain, je vais fêter mes 20 ans d'expertise sur l'adaptation. Donc j'en ai vu passer, un tiers de mon temps était à prêcher dans le désert. Donc je suis très content qu'on en parle, et ça a été effectivement le parent pauvre pendant très longtemps. Mais là, je crains que quand même, il y ait un autre parent pauvre dans ce concept d'adaptation, c'est cet aspect de transformation. Et on focalise beaucoup sur la protection. Et oui, ok, très bien, parce qu'il en faut. Mais il ne faut pas oublier le cap. Le cap, c'est la durabilité. Ça veut dire que la transformation est inévitable, non seulement sur le fait qu'elle soit souhaitable, c'est que soit, à un moment donné, elle va venir d'elle-même, et auquel cas on va subir la transformation, ou bien on a encore des marges de manœuvre de choix pour essayer de choisir des trajectoires de transformation. Mais qui dit transformation dit forcément rupture. Et qui dit rupture dit courage d'affronter les choses qui ne fonctionnent plus, qui ne fonctionnent pas, et d'essayer de se réorienter vers autre chose. Et ça, je ne le perçois que très peu, malheureusement.
Et concernant le secteur de la santé, avant qu'on ne parle en effet des conditions de la transformation et de, après l'avoir dit, que fait-on, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être des exemples sur ce secteur ?
Alors le secteur de la santé, malheureusement, est occupé, est fort occupé justement entre des milliers de contraintes, je dirais, qui fait que pour l'instant, l'adaptation est plutôt subie de leur côté que justement choisie. Donc d'où l'idée justement d'essayer de mettre ce guide un petit peu. Donc des exemples, malheureusement, il n'y en a pas des masses, je dirais, mais ce qui est intéressant, c'est que ils ont plutôt pris le parti pris, la majeure partie, en tout cas des établissements sanitaires et médico-sociaux qui ont voulu mettre en avant cette dimension-là, ou bien les acteurs de la santé à l'échelle régionale, ils ont plutôt essayé de faire ça à travers ce qu'on appelle le concept de One Health, c'est-à-dire une santé. C'est-à-dire quelque chose de tout de suite systémique dans laquelle on intègre l'adaptation dans d'autres politiques qui sont mises en œuvre. Et donc, à partir du moment où il y avait par exemple des politiques de RSE déjà en place dans les établissements, l'intégration de l'adaptation était un petit peu la suite logique. Et donc cette vision systémique s'est par elle-même infusée à travers ces petites politiques à l'échelle des organisations. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que l'adaptation n'est pas découplée, ne se rajoute pas à quelque chose qui est déjà en place et dont il y a déjà, on va dire, des piliers, un terreau ou une dynamique qui est déjà en place.
Merci pour tout cela. Là, on va passer au deuxième tour, mais qu'on a quand même déjà beaucoup engagé. D'ailleurs, ça a été très intéressant dans la préparation de cette table ronde d'entendre en effet les intervenants autour de cette table, qui pour beaucoup ont des parcours scientifiques, d'ingénieurs. Et en fait, vous avez été tout de suite beaucoup plus dissert sur la partie vision sociétale. Donc c'était intéressant aussi et éclairant d'entendre cette ambition dans vos voix immédiatement. On va parler en effet à partir de maintenant de quelle vision est-ce que l'adaptation au changement climatique, c'est également une vision sociétale. Il semble en effet que ça fasse partie des convictions de certains de nos interlocuteurs. On va parler des mots différents qui vont peut-être être nécessaires pour le permettre, des échelles différentes également. Et puis certains d'entre vous, certaines ont même pu parler de certaines émotions. Donc on est en effet sur un changement de paradigme assez important. Madame Montelleoni, je vais à nouveau vous mobiliser, puisque quand on a évoqué ce sujet en effet de la vision sociétale, vous avez immédiatement parlé des questions de justice et d'injustice climatique et comment, à vos souhaits, l'IA pouvait également participer au fait d'apporter en tout cas une vision, en tout cas de contribuer au fait qu'on ne soit pas sur quelque chose de plaqué, mais qu'il y ait cette dimension humaine et de justice qui puisse être mise en place, en tout cas prise en compte.
Oui, merci. L'injustice climatique, pour moi, c'était très évident. Aux États-Unis, on a des communautés qui n'ont pas peut-être beaucoup de pouvoir ou argent et qui sont souvent ciblées pour les projets des usines, des incinérateurs, les choses qui peuvent, par exemple, causer des problèmes de santé, par exemple avec ces exemples-là, ça sera peut-être les problèmes de santé du poumon. Et si je concevoir un nouveau outil pour appuyer des décisions et pour prévoir, par exemple, les feux de forêt et où ils vont, c'est en même temps très très exigeant de prévenir les communautés dans les chemins probables, mais en même temps, peut-être il y a une communauté plus loin, mais à cause de cet héritage de l'injustice climatique, est plus vulnérable à une dégradation d'air à cause de feux de forêt. Et en même temps, je vise l'usage de l'IA au service de l'équité des données climatiques. On a évidence qu'on n'a pas les mêmes couvertures avec où on enregistre même les données radar pour les tempêtes, par exemple. aux États-Unis, mais aussi on sait au niveau global, les pays nord, les pays industriels, nous avons généré la plupart de carbone et nous ne souffrons pas déjà les conséquences comme les pays sud en développement, mais quand même au Nord-Amérique et en Europe, on a beaucoup plus de données. C'est un lieu très riche en données de météo et à fines échelles. Alors, comme Madame Claire a invoqué, on peut utiliser l'IA pour faire de la transfert de connaissances qu'on a avec les entraînements dans les lieux une abondance de données comme France et les appliquer dans les pays où les locaux sont beaucoup de données. Et j'aime faire ça parce que ça lutte contre l'inéquité de données. Mais l'IA toute seule n'est pas la solution au changement climatique. Il faut quand même qu'on change notre façon de vivre pour réduire notre émission de carbone.
Merci pour cette prise de parole. Et vous évoquiez en effet les questions de justice et d'injustice climatique qui permettent aussi, s'il y a justice, que l'adaptation au changement climatique soit plus facilement acceptée par les citoyens, par les sociétés. Je vais continuer avec vous, Gilles Vermeaux-Desroches, étant donné que la transition juste fait partie des très fortes convictions de Schneider Electric et des vôtres. Comment est-ce que cette dimension de transition juste peut s'incarner, se déployer pour la question de l'adaptation au changement climatique ?
Oui, merci beaucoup. Oui, c'est intéressant, c'est-à-dire que les mots ont une valeur et nous amènent dans des réflexions différentes. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup de conférences, il y en a, sur d'un côté l'atténuation, l'adaptation, comment l'un passe à l'autre, comment on avance. Voilà, ça c'est un corpus de sujets, très bien. Puis après, d'autres jours, on peut avoir d'autres réflexions si on suit les publications du Club de Rome, par exemple, qui dit que le grand sujet du changement climatique aujourd'hui, c'est le défaut d'inclusion sur un certain nombre de pays par rapport à d'autres, la croissance des inégalités dans les pays riches, et que ce sujet-là nous empêchera de traiter le sujet de climatique. Ça, c'est un deuxième sujet. Et un troisième sujet, si on est au cœur des entreprises, on a beaucoup parlé des entreprises à impact, puis après, beaucoup de ces entreprises on fait leur feuille de route net zéro quand on parle du carbone. Puis aujourd'hui, on voit bien que celle-là est complexe. On ne sait pas très bien comment on va en sortir. Alors, on parle plutôt d'entreprise positive pour ne pas parler d'entreprise zéro. Puis après, la politique d'impact, on parle de la politique de régénération. Puis sur un autre plan, qui est encore bien plus important, il y a la question géopolitique mondiale et les conséquences de celle-ci sur l'ensemble des programmes. Il faudrait bien qu'on ne fasse pas toujours ces lignes de nage, parce qu'elles s'interconnectent quand même beaucoup, beaucoup. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, je suis un tout petit peu en désaccord avec l'une des intervenantes. Je pense qu'y compris dans le bâtiment, on n'a pas tout pensé. Je pense que, par exemple, quand aujourd'hui on a cette réflexion sur la place de la voiture dans la maison et comment la voiture demain sera probablement à la fois le backup énergétique, à la fois ça sera pas à la maison, puis on profite de sa maison pour charger sa voiture, etc. On a pas mal d'expériences aujourd'hui qui montrent une très grande évolution avec un mot que les technologies viennent changer, viennent inclure à notre débat, qui est le mot de la flexibilité. Et une attitude des gens qui est née un peu de l'économie circulaire, qu'on voit sur un certain nombre d'aspects, mais qu'on voit sur d'autres aspects, qui est que chacun préfère son autonomie. On a la chance d'avoir une panéliste qui connaît bien les États-Unis. Les États-Unis, aujourd'hui, il y a un grand modèle de l'autoconsommation énergétique, de sortir du réseau. Schneider a fait le réseau indépendant de l'aéroport JF Kennedy. C'est dire que je ne suis pas seulement en train de parler de la petite maison dans la prairie qui met ses trois panneaux pour être libre et indépendante. Je suis en train de parler d'un grand aéroport, le plus grand ou un des plus grands, non, c'est loin d'être le plus grand, mais en tous les cas d'un grand indépendant, qui, aéroport qui se dit, bah, au milieu de toutes ces questions-là que je viens de mettre sur la table, la meilleure des solutions pour réduire mes risques, c'est d'être indépendant. Et on le voit bien d'ailleurs, chacune de nos entreprises, Schneider Electric, a un appareil industriel de 220 usines dans le monde, toutes petites à peu près, avec 300-350 salariés. Pendant 20 ans, tous les analystes de la planète ont dit à cette boîte « Non mais vous êtes ridicule, vous pourriez gagner beaucoup de sous si vous faisiez 5 grandes usines dans 5 coins différents, vous produisez et vous faites le déménageur de vos produits. » La logique de Schneider a été et est amplifiée aujourd'hui de produire 80% des produits qu'on vend, 50 000 références, dans un continent, sur le continent dans lequel on les vend. Parce que ça participe de notre politique d'adaptation, qui est de faire en sorte que, un, on construit un peu une autonomie locale, deux, on essaie d'être nous-mêmes producteurs de notre énergie ou d'acheter une énergie verte, etc. Et puis, on s'adapte à un monde d'où on sait très bien que les grands difficultés climatiques vont produire des difficultés de déplacement, de logistique, de passage, qui est tout de suite un des sujets qui, dans l'industrie, souffre le plus des évolutions. Il suffit de regarder les 4 dernières années. Les plus grands problèmes industriels, y compris qui ont une conséquence sur la croissance, sont liés aux problèmes de déplacement de la logistique. Et donc, moi, je pense que l'innovation est clé. Dans les manières de faire du business, dans les business models d'une part, il y a beaucoup d'innovations à créer de ce côté-là, mais aussi dans les solutions mises sur le marché, parce que c'est les technologies qui changent le monde. C'était un peu la question qui était au début de ce sujet-là. C'est pas l'impôt contre le crottin au début du siècle qui a fait en sorte que Paris ait à nouveau un peu d'oxygène. C'est le moteur à combustion. Alors on voit les conséquences un siècle après. Mais au début du 19e siècle, du 20e siècle, prenez votre n'importe quel moteur de recherche, regardez quels sont les problèmes de Paris au début du 20e siècle. C'est de suffoquer sous le crottin. La France invente un impôt. Ça ne change pas grand-chose. Arrive le moteur à combustion et Paris est libéré. De la même manière, ce n'est pas parce qu'on a manqué de pierre qu'on est passé à l'âge du fer. Eh bien, je pense que les technologies, les innovations, par rapport au sujet dans lequel on est là, doivent être mises au service de notre sujet. Ça veut dire qu'il faut vraiment en parler souvent, parce que mettre l'adaptation dans les logiciels intellectuels de l'innovation, probablement, ça donnera un coup de boost. Et deuxièmement, ça trouvera les solutions dont on a besoin demain.
Merci. On va continuer avec vous, Madame Gatti Grégory. Quand nous avons échangé, en effet, quand je vous ai demandé, voilà, est-ce que Bouygues Construction a une vision sociétale de l'adaptation climatique, en effet, vos mots, et vous avez commencé à les évoquer tout à l'heure, ont été ceux notamment de qualité de vie. Vous avez même parlé de l'importance de ramener de la beauté, ce qui était assez étonnant, voilà, étant donné la structure à laquelle vous appartenez. En tout cas, ce n'était pas évident que ce soit les premiers mots prononcés. Est-ce que vous pouvez nous indiquer comment est-ce que vous mobilisez ce type de vision, voire de mots, auprès de vos interlocuteurs publics et privés? Quand on est Bouygues Construction, est-ce qu'on va parler d'enjeux de la beauté ou de santé mentale à des promoteurs?
Oui. Alors, déjà, les problèmes qu'on a souvent arrivent parce qu'on a séparé ce qui est social de ce qui est le contexte environnemental. Et dans une approche d'aménagement du territoire, on a eu une approche dominante. L'humain qui domine le territoire et l'environnement. Et ça crée beaucoup de problèmes. On a un dernier exemple, par exemple, à Valence aussi, sur le sujet des dominations. Donc, notre vision, c'est, comme je vais commencer à dire de la première intervention, c'est de considérer le territoire comme un corps et étudier son métabolisme. Et dans ce corps, il y a les humains et il y a la nature. Et lui donner la possibilité de se régénérer à ce corps en essayant de voir ses potentialités et pas les problèmes. Donc c'est déjà c'est ça l'approche. Et ça aussi, c'est une approche innovante. Et l'innovation n'est pas toujours de la technologie. On peut faire des innovations très low tech. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord que c'est la technologie qui sauve tout, mais qu'il y a besoin d'innovation, oui. Mais il y a différentes formes d'innovation et ça peut être aussi l'approche qui est innovante, l'organisation, comment on organise un projet, le dialogue. Et donc dans cet corps qui est le territoire, il faut mettre autour de la table toutes les parties prenantes et il faut poser les questions aussi de comment on voit le territoire. Et même là, souvent, on voit des problèmes parce qu'on disait il faut imaginer comment on imagine la ville de demain. Eh bien, on l'a demandé, par exemple, à des enfants à Marseille. Et un jour, parce qu'on a un anthropologue aussi dans notre direction de développement durable. Et en fait, ce qui était étonnant, quand on a vu la production des dessins de la ville de demain, comme l'imaginent les enfants, c'était des feuilles blanches avec des traits noirs. Et la seule chose colorée, c'était des voitures. Donc, on est arrivé à un point d'éloignement de la nature et de la beauté qu'on n'arrive même plus à imaginer. Et donc, il faut déjà redonner l'espace à l'imaginaire parce que c'est compliqué de parler des transformations si les gens n'arrivent pas à se projeter et on n'avancera pas. Donc, c'est très important de faire cette reconnexion avec la nature. Et il y a plusieurs études scientifiques qui disent qu'il y a beaucoup de problèmes de santé mentale. Et la santé mentale, c'est une cause nationale 2025, la France. Beaucoup de problèmes, 37% des problèmes aussi de santé mentale, d'augmentation de ça, dérivent aussi du fait qu'on s'est éloigné de la nature et de la beauté, en fait, qui nous donne la nature et qui peut nous faire imaginer d'autres environnements. Donc l'approche qui est globale, nous on le met en œuvre parce qu'on a des comités avec toutes les parties prenantes. On travaille avec les institutions, les chercheurs, l'ADEME. On fait des cahiers des tendances sous la ville régénérative dont j'ai dit quelques mots avant sur la datation des territoires et on les fait avec toutes les parties prenantes parce qu'on ne peut pas s'imaginer tout seul et c'est avec toutes les parties prenantes en fait qu'on fait de l'innovation et on amène aussi à réfléchir à tout ce qui est le social parce qu'on ne peut absolument pas le séparer. Moi je ne peux pas parler d'adaptation au changement climatique, c'est pour ça qu'après j'ai dérivé un peu sans parler du social parce que sinon on continue à faire la même erreur de séparer les deux.
Merci pour ce partage. Monsieur Roussel, quand on a parlé en effet adaptation climatique, vous m'avez dit que pour vous, il y avait entre atténuation et adaptation une articulation des échelles entre l'intérêt et les actions qui sont très différentes entre le collectif et l'individuel. Est-ce que vous pouvez nous raconter cela ?
Ouais. D'abord, si vous pouvez me permettre, je vous avais dit avant de dire ça, j'avais réagi tout de suite, je m'en souviens très très bien, je vais le refaire là. Avant de m'occuper de la France, je m'occupe de la France. Moi, je suis Bureau Veritas depuis 2 ans maintenant. Et avant, je m'occupais pendant 10 ans de l'Afrique. Et j'ai du mal à parler sur ce sujet-là sans évoquer quand même le sujet Afrique, parce que mes pauvres amis africains, on parle de catastrophes qu'on voit à la télévision, super bon. Mais je peux vous dire, parce que je suis toujours quand même pas mal de sujets en Afrique, il y en a tous les jours. Il y en a au Malawi, il y en a au Cameroun, il y en a au Kenya cette année, qui a eu une année absolument catastrophique avec les sécheresses après avec les inondations. Mais je le sais parce que je suis pas mal les nouvelles sur l'Afrique. Quoi. Parce que si je regarde la télévision, j'en vois un petit peu, mais j'en vois pas beaucoup. Et il faut pas rêver, l'adaptation, je vois pas bien un monde où nous on va s'adapter et les autres en face qui s'adaptent pas, qui prennent et que personne réagisse. Ça, je le sens personnellement, mais là, c'est plutôt personnel que Bureau Veritas. C'est un schéma de jeu que je sens très très mal. Cela dit, oui, ma réflexion, c'était un peu de dire, parce qu'on a beaucoup parlé d'atténuation, d'adaptation. Et quand j'observe les deux, dans ma tête, je me dis, c'est vrai que l'atténuation, on a eu du mal à convaincre les gens. Parce qu'en fait, l'atténuation, vous demandez à quelqu'un de faire une action qui est de moins consommer, de s'isoler, de dépenser de l'argent pour économiser des émissions de CO2. Je vais faire schématiquement. En fait, on demande à quelqu'un de faire une action pour un bien qui est un peu collectif, c'est un peu conceptuel. Ça part, ça va économiser du CO2 qui va aller un peu moins chez les amis africains. OK. C'est pas facile de mobiliser les gens. Donc, c'est un peu une action un peu individuelle. Changer ta voiture électrique, thermique ou une voiture électrique, pour la bonne cause collective. L'adaptation, à contrario, pour moi, c'est un peu le contraire. L'adaptation, et je l'ai dit tout à l'heure, dans les moteurs, les motivations, c'est quand même très, très économique. Quoi. C'est comment je peux faire pour garder ma maison, comment je peux faire pour garder mon usine, comment je peux faire pour garder ma qualité de vie, parce que l'été, j'aimerais bien profiter d'une bonne température, comment je peux faire pour garder mon fonctionnement mon bien, quoi. Donc c'est quand même une motivation qui est très individuelle, avec un effet sur ce que je vais faire qui va être très concret, très très proche, quoi. Par contre, l'adaptation,
vous allez avoir du mal à trouver, à faire un rempart devant votre usine. Il va bien falloir que vous alliez jouer sur du collectif, sinon on l'a dit, ça a été dit et redit, plutôt à l'échelle du territoire. Okay. Et c'est vrai que moi, je pense qu'en adaptation, on va arriver assez rapidement, ça c'est ma croyance personnelle, à motiver les gens. Parce que c'est très individualiste. Par contre, on a besoin de collectif. Et là, ça peut être d'un point de vue sociétal. Il y a un risque. C'est les gens super riches, ils se disent moi, je me protège et je m'adapte en me protégeant, je me surprotège. Donc, je fais mon électricité indépendante, je fais mon petit forage à 3000 mètres de profondeur pour récupérer de l'eau, même s'il n'y en a pas. Mais c'est un peu le rêve de certains pays du monde, on va dire, sans citer personne. Mais c'est aussi une opportunité, parce que ça peut aussi être l'opportunité de recréer du lien à la discussion au niveau territorial, en ayant, et ça a été dit par plusieurs personnes, des conseillers de parties prenantes, un échange avec les populations, avec les entreprises, mais aussi avec les gens en charge du réseau. Maintenant, donc, j'ai envie de dire, charge à nous d'en faire une opportunité en recréant du lien au niveau du territoire, ce qui n'est pas inutile, quoi. Voilà ce que je partageais.
Merci. Guillaume Simonet ou Maniac, lorsque nous avons parlé de ce sujet-là, vous m'aviez dit voilà, l'adaptation au changement climatique, c'est la conséquence aussi de choix sociétaux, et le changement climatique est quand même lié à l'activité humaine, et donc on se retrouve à s'adapter à des conséquences qu'on a nous-mêmes créées, quand même quelque chose qui est assez complexe à gérer. Et on s'est dit voilà, mais une fois qu'on s'est dit qu'il fallait changer de paradigme, et voilà, finalement comment est-ce qu'on fait? Et là, vous avez évoqué la question du rapport au risque.
Je m'en souviens plus.
Je vais vous le souffler.
Je me souviens du début, effectivement. Et je trouve qu'on ne met pas assez l'accent sur le fait que les changements climatiques sont la conséquence de choix sociétaux. Donc la dimension humaine, si elle est au cœur du problème, elle est au cœur de la solution, forcément. Ça paraît logique, mais semble qu'on le... Voilà. Et donc, si on focalise un petit peu sur... Du coup, je vais aller plutôt sur cette piste-là, vous me direz si. Si on focalise sur la dimension humaine, force est de constater quand même qu'on a perdu deux choses. Et je vais citer un auteur qui le dit mieux que moi. Il y a une forme... Enfin, c'est plus qu'une forme. Il y a une crise de la sensibilité très forte. C'est-à-dire que qui porte la voix maintenant des milieux vivants non humains, il y en a très peu. Et quand ils la portent, de quelle manière ils la portent, comment se font les négociations autour de ça, etc. On a qu'à voir le résultat de la dernière COP de la biodiversité, comment c'est fait. C'est un échec monumental. Et donc, il y a un auteur qui a dit, tant que la biodiversité ne représente pas un risque en soi, on n'en parlera pas plus que ça. Donc il y a une crise de la sensibilité. Deuxième chose, il y a une crise, clairement, de l'enthousiasme. Donc si on prend l'inverse, on pourrait dire que l'enthousiasme et la sensibilité pourraient être des actes de résistance. C'est-à-dire comment cultiver ça pour essayer de... Alors, Monsieur Dessertine l'a très bien dit, comment réenchanter finalement les projets? Alors oui, on peut utiliser de l'imaginaire, on peut utiliser des récits, etc. Mais je pense qu'il faut aller peut-être au-delà, et peuvent effectivement s'agglomérer autour de ça, du collectif, de la solidarité, etc. etc. Mais bref, enthousiasme, sensibilité me semblent quand même des piliers assez importants. L'autre chose, c'est que pour moi, l'adaptation, je ne le vois pas forcément, vous l'avez compris, comme seulement de la protection. Et je trouve qu'au contraire, c'est une notion extrêmement beaucoup plus compliquée. Le choix sémantique qui a été fait par les scientifiques des années 90 est, à mon avis, assez intelligent, parce que c'est une notion extrêmement complexe dans laquelle on peut mettre beaucoup de choses, certes, mais qui réfère à des choses très importantes. Pour moi, l'adaptation invite forcément à repenser un projet de société. C'est-à-dire société, societas, latin, union, association. Il y a le collectif dedans. Et donc ça invite à ça. Mais c'est aussi dans la lignée de toutes les réflexions depuis les années 70 sur le développement durable, la durabilité, la viabilité, donc la prise de conscience des limites planétaires, etc. On est toujours dans cette lignée-là. Donc le focus, bien qu'on prenne la porte des changements climatiques, doit toujours, à mon avis, toujours se référer à l'ensemble des limites planétaires, aussi bien le plafond que le minima, les minima sociaux, etc. La théorie du donut là, qui circule en ce moment, voilà. Donc voilà ce que je pourrais dire sur ça, sur le fait que ça invite forcément, encore une fois, à faire d'autres choix sociétaux et donc à engager à un moment donné des ruptures du courage d'aborder en tout cas ce qui fonctionne moins bien et ce qui devrait mieux fonctionner.
Merci. Et pour me faire la porte-parole d'une partie des échanges que nous avions eus, vous m'aviez dit également il faut accepter d'être en apprentissage, il faut assumer qu'il va falloir qu'on soit en mode essai-erreur, étant donné l'évolution des modèles de risque. Il va, en effet, là, ça résonne ce que vous voulez d'indiquer, il va falloir trouver les rouages de mobilisation, alors qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup de fermetures sur soi. La parole était intéressante également. On va terminer avec vous, Madame Claire, pour permettre ensuite à l'audience de pouvoir aller se rafraîchir et boire un café. Et nous aussi, tout à fait. Sur cette question sociétale, lorsqu'on a échangé, vous avez exprimé plusieurs niveaux de réflexion. Celui des pouvoirs publics, avec notamment un concept de RONI que je vous inviterai à détailler. Et également de ce que ça veut dire l'adaptation au changement climatique à la mesure d'une personne, quand l'endroit où elle vit risque d'être dévasté ou vient d'être dévasté.
Tout à fait. Et je rebondirai sur ce que Marc Roussel a dit. Je ne l'avais jamais imaginé comme ça, l'individualisme et le collectif, mais je suis tout à fait d'accord. Et sur cette notion d'adaptation au changement climatique, je pense qu'on est devant une crise sociale majeure, tout simplement parce que, par exemple, sur la France, pour 60% des Français, leur seul investissement financier, celui de toute leur vie et celui qu'ils comptent transmettre à leurs enfants et à leurs petits-enfants, c'est leur habitation. Or, aussi pour la France, beaucoup plus que la moitié de ces habitations ne sont absolument pas viables dans le climat de 2050. On a parlé que 98% des appartements en ville n'étaient pas adaptés à la problématique des canicules. Il y a 10 millions de maisons individuelles à risque sur le retrait et gonflement d'argile, 10 millions d'habitations aussi à risque sur les débordements de cours d'eau sur des inondations. 20% des collectivités qui sont touchées par les risques de feux de forêt. Donc on parle au-delà de l'émoi d'une catastrophe, on parle d'une crise majeure sociale. Et la question est, il faut prévenir. Et de nombreuses, et que ce soit de la prévention ou de la protection, quand la prévention n'est pas possible à l'échelle individuelle. Je m'explique, sur le retrait et gonflement d'argile, ça va être de la prévention, parce que ce que vous essayez de faire, c'est d'éviter qu'en cas de pluie importante, il y ait trop d'eau dans vos fondations, autour de vos fondations superficielles, ou qu'en cas de sécheresse, il y ait trop d'arbres qui viennent tirer la dernière eau, afin d'essayer de limiter les impacts de ce retrait et gonflement d'argile. Par contre, sur une inondation, c'est bien aux collectivités, on en a parlé beaucoup aujourd'hui, de prendre des mesures, et à la personne individuelle, ce qu'elle peut faire, c'est se protéger. Donc on peut travailler là-dessus, mais la question, c'est quand on met en face, bah, par exemple sur le retrait et gonflement d'argile, un gros sinistre peut facilement atteindre 100 000 euros, et dans notre système en France, il est soit remboursé via CatNat, parce que votre collectivité a été en CatNat, ou pas du tout. Parce que vous êtes assuré, mais vous n'avez pas été déclaré CatNat, et les 100 000 euros, ils sont pour vous. Donc ça, c'est évidemment des crises très très importantes au niveau individuel. Or, protéger une maison au RGA, c'est peut-être 5 000 euros. Je vous parle de mettre des gouttières, je vous parle de mettre un trottoir périphérique autour des maisons. On est sur des choses qu'on peut même faire soi-même. Et donc, en fait, la problématique, nous, par exemple, on a donc des simulateurs de prévention au risque de retrait et gonflement d'argile. Alors, on met beaucoup d'IA pour, en fait, expliquer aux gens. On a vu les canopées d'arbres, on a vu les pentes, etc., pour donner la vulnérabilité de l'habitation. Mais les solutions sont très simples. Et quand on va voir les assureurs et les banquiers qui sont nos clients, ils nous disent, c'est quoi mon ROI ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de ROI à dire aux gens, faites 5 000 euros d'investissement pour ne pas avoir potentiellement un sinistre de 100 000 euros. Et ça, c'est un vrai problème, et c'est un problème dans toute la chaîne. Et c'est là-dessus que, en effet, je voulais conclure. Dans nos sociétés actuelles, on parle tout le temps de ROI, donc de Return of Investment, mais la réalité de l'adaptation au changement climatique, c'est le RONI, c'est le Return of Non-Investment. Et ça, les industriels l'ont bien senti, ils font des grands programmes dessus, mais je pense que là-dessus, les pouvoirs publics doivent vraiment avoir un rôle, je pense, réglementaire, et dans le PNAC, c'est là-dessus, sur les particuliers, c'est pas très très fort, donc on va aussi glisser des propositions. pour qu'en fait les particuliers puissent être sensibilisés, parce que c'est quand même très difficile de voir et de ressentir ce RONI, puisque justement le risque n'est pas encore là, enfin non, il n'est pas tangible, pour agir.
Merci beaucoup à toutes et à tous. On a entendu parler de crise de la sensibilité, de l'enthousiasme, mais également de beauté pour une table ronde sur l'adaptation au changement climatique. C'était assez étonnant, donc merci pour ça.